L'idée, c'est de vous parler assez rapidement de l'activité, non pas déconnectée, mais assez particulière de l'activité des ondes de choc. On a vu un peu la première partie, c'était un peu quelle était la thermodynamique derrière. La deuxième partie, c'était de voir comment elles évoluaient dans l'espace. Et maintenant, l'idée, c'est de voir leur fonction en tant qu'accélérateur de particules. Il n'y a pas beaucoup de moyens d'accélérer les particules dans la nature, il n'y en a que trois. Et l'un de ces processus, c'est justement l'accélération par les ondes de choc, l'accélération dite de Fermi. Donc cette accélération est probablement responsable, avec des objets différents, mais elle est probablement responsable de ce spectre de rayons cosmiques que vous voyez ici. Ces rayons cosmiques sont des particules relativistes qui se promènent partout dans notre galaxie et au-delà. Et là, pour celle, on va parler des galactiques ici. Donc qui démarrent à des énergies juste subrelativistes et qui vont aller jusqu'à 10 puissance 18 électronvolts. Ça, ce sont des gels, attention, donc vous ajoutez 9, 10 puissance 20 électronvolts, et avec des lois de puissance où il y a des cassures dans la distribution d'énergie, mais des cassures très douces et des grandes plages de grandes lois de puissance. Donc ce qui indique qu'il y a quand même une certaine universalité d'accélération des processus derrière et qui a tourné les gens assez rapidement vers le fait que le gros de ces particules doit être accéléré par des restes de supernova. Et on va voir justement le processus d'accélération de Fermi à et par choc, c'est vraiment, quel que soit le choc, car on monte sur les restes de supernova parce que ce sont ceux qui ont plus de puissance, mais ça peut marcher sur des chocs de vent stellaire, ça peut marcher sur les chocs interplanétaires aussi, on va le voir dans différents contextes. Et donc, le fait que vous ayez une onde de choc ici, et qu'elle ait des structures magnétiques un petit peu différentes de part et d'autre, et surtout qu'il y ait cette symétrie de vitesse, quand vous êtes sur le milieu amont, vous voyez le milieu aval arriver sur vous, et réciproquement, il va y avoir un processus d'accélération qui s'appuie entièrement sur une diffusion sur le champ magnétique. C'est-à-dire que vous prenez un atome du milieu extérieur qui va passer dans le choc. Il a des mouvements compliqués parce qu'il fait des loopings dans le champ magnétique. Ici, il va passer derrière le choc, le champ magnétique est comprimé, c'est pas le même. Il va repasser de l'autre côté. Et en fait, on utilise une diffusion sur le champ magnétique. Enfin, on utilise la nature, on utilise une diffusion sur le champ magnétique parce que ça présente l'immense avantage que les particules sont défléchies dans l'espace, elles tournent, mais elles ne perdent pas d'énergie puisqu'un champ magnétique, ça ne travaille pas. Donc, vous allez, quand vous gagnez de l'énergie, vous allez pouvoir jouer à sauter de part et d'autre de l'onde de choc et gagner du coup de la quantité de mouvement à chaque passage parce que c'est un jeu de tennis qui va avec des vitesses différentes. Donc, vous allez gagner la quantité de mouvement en changeant de vitesse, mais vous n'allez jamais la perdre parce que vous faites des loopings ici parce que le champ magnétique ne travaille pas. Donc, voilà le principe de base. Et le principe de base, c'est donc d'un flot convergent, et je vais le revenir dessus dans un instant, mais avec des déflexions magnétiques. Alors ce jeu de base, il avait été mis au point par Fermi en 1949, dans une version qui était de dire, on découvrait le champ magnétique dans le milieu interstellaire à cette époque-là, et donc il s'est dit, ah, ben, j'ai des nuages interstellaires, et puis j'ai ces rayons cosmiques qui se baladent. C'est depuis 1910 qu'on cherche à comprendre l'origine des rayons cosmiques et qu'on se tape la tête contre les murs. Donc il avait pensé, donc déjà un bon 39 ans après, donc 34 ans après, il avait déjà pensé à se dire, bah, il y a des champs magnétiques dans les nuages, il y a des nuages qui sont des objets plus ou moins denses, donc dans les objets denses il y a plus de champs magnétiques, et donc on va penser que bah, on est défléchi, on va jouer donc à être défléchi ici, puis là on gagne de la vitesse parce qu'on sort dans le même sens que le nuage, et puis là au contraire on va perdre de la vitesse parce que bah, la particule rentre dans un nuage qui vient à l'encontre d'elle, et au contraire il y a un autre nuage qui va la réaccélérer derrière. Et en fait, il avait fait le calcul que, bah, a priori, à chaque rencontre, vous gagnez ou vous perdez. Donc le bilan n'est pas très important. Au premier ordre, ça s'annule, effectivement. Mais au second ordre, ça ne s'annule pas. Pourquoi ? Vous avez tous fait du vélo quand il pleuvait, un jour. Et quand, devant, vous avez plus de gouttes d'eau qui vous attrapent que derrière. Statistiquement, vous avez une fréquence de collision de face qui est plus importante que de collision où vous courez derrière le nuage. Et donc, à cause de cet effet de différence de nuages qui viennent vers vous, statistiquement, il y en a plus que de nuages après lesquels vous courez, il y a un effet au second ordre qui ne s'annule pas, et ça fait une accélération qui sera en vitesse. Parce que ce que vous gagnez, c'est le MV, une fraction du MV du nuage. Donc, ça sera un effet qui sera en vitesse relative V sur la vitesse des particules. Comme on a des particules relativistes, on va mettre C et on ne va pas s'embêter. Donc ça sera un effet en V sur C au second ordre, au quart. V sur C, V2 sur C. Et, donc, et malheureusement, il s'est aperçu assez rapidement que ça n'avait pas une grande universalité. Parce que les rayons cosmiques et le spectre qu'on mesure des rayons cosmiques, on le mesure en différents endroits, bon, à la Terre, à l'époque pour lui, mais aujourd'hui, on peut essayer de le mesurer en différents endroits de la galaxie, et on s'aperçoit qu'en fait, il est assez peu variable d'un point à un autre. Donc le processus d'accélération doit être global et avoir des propriétés qui ne dépendent pas trop de l'environnement là où s'est passée l'accélération. Donc c'est ça qui va craquer et qui va faire qu'entre les années 50 et les années 77-78, il ne s'est plus rien passé parce que tout le monde était en panne sèche. Et, mais par contre, on était en panne sèche, mais à l'époque, juste pour vous montrer, on parlait ensemble l'autre soir de la capacité qu'on a aujourd'hui, grâce beaucoup aux images de la NASA et d'autres sources, mais surtout la NASA, de vulgariser, de diffuser les connaissances de recherche fondamentale sur le milieu extérieur. On a encore des progrès à faire. Mais regardez comment c'était dégradé ici. Je vais vous montrer, peut-être, j'ai plus de souris. Oui, je vais vous montrer un petit film qu'avait fait Fermi à l'époque pour simplement vulgariser son idée de nuages qui jouent au ping-pong avec les rayons cosmiques. Et pour faire, là c'est un petit extrait de 2 minutes d'un film qui est un DVD qui dure 1 heure, où il y a la physique du soleil, et il y a la physique de l'accélération. Et il avait pris Frank Capra pour faire le film. C'est comme si vous preniez Spielberg aujourd'hui. Et vous avez les moyens, c'est dans les années 60, je pense qu'il est 50 ou 60 qu'il a fait ça. Et vous avez les moyens, c'était la grande époque des dessins animés. Walt Disney, c'est même pas 20 ans avant. Et donc, vous imaginez devant ces petits moyens, l'équipe qui est derrière pour faire la vulgarisation. Alors là, je reviens, désolé, je vous allez voir donc le champ magnétique d'un nuage interstellaire, et puis il y a plusieurs nuages interstellaires, et ça résume ça, et vous voyez comment le dipôle se transforme en raquette de tennis, donc c'est très bien réfléchi, voilà. Et donc, en fait, voilà, là, je vous passe le film d'une heure, mais voilà, tout ça sur la musique de Wagner, des Valkyries en plus. Donc vous voyez les particules qui se font ricocher d'un nuage à l'autre, et qui vont gagner de l'énergie parce que la partie devient de plus en plus rapide. Et là, c'était pour symboliser. Ne me demandez pas pourquoi les électrons ont des couches comme les bébés. Ça, je n'ai pas retrouvé dans le film l'origine. Mais, et le fait que, bah, après, ces particules vont partout dans toutes les directions, et donc on perd complètement l'information de leur source. Ce ne sont pas comme les photons qui arrivent en ligne directe de la source à nous, ce sont des particules qui vont aller ricocher dans tous les champs magnétiques de la galaxie avant de parvenir. Donc, on n'a plus aucune information sur leur direction d'origine. Et là, il avait joué à Fantomas avec ses particules pour nous les apporter. Mais bon, on rêverait tous aujourd'hui de vulgariser avec les Spielberg et compagnie, et les moyens qui vont avec. Ça ne se fait plus, il faut qu'on retente le coup. Donc, si vous voulez le film, on peut le trouver, il se réachète aujourd'hui, ça s'appelle The Strange Case of Cosmic Rays. Donc, voilà, il y a surtout le soleil, c'est amusant de voir les théories du soleil à l'époque. Donc vous avez le principe de base, il est résumé sur ce transparent. L'idée, c'était vraiment pourquoi j'attirais votre attention l'autre jour, c'est-à-dire la symétrie quand on change de référentiel. Si vous êtes dans le référentiel aval, vous voyez le milieu amont, vous arrivez dessus avec 3/4 de la vitesse du choc, et si vous vous mettez en équilibre avec le référentiel amont, vous voyez le milieu aval arriver avec 3/4 de la vitesse du choc. Et donc c'est totalement symétrique, et cette symétrie fait que si on arrive à trouver un moyen d'amener les particules à être en équilibre ici vectoriel dans un milieu, que ce soit amont ou aval, si vous êtes avec une vitesse relative par rapport au milieu zéro, mais c'est vectoriel, vous pouvez très bien aller bouger vite, il suffit de bouger aléatoirement et votre vitesse est nulle en vecteur. Donc l'astuce, elle est si j'isotropise complètement le mouvement de la particule de ce côté-là, eh bien je vais voir une raquette qui m'arrive dessus avec trois quarts de la vitesse du choc, et je vais gagner de l'énergie parce que c'est un flow, c'est quelque chose qui me tape dessus. Et si je repasse de l'autre côté, que j'isotropise mon mouvement par rapport à ça, eh bien je retrouve une raquette qui me revient dessus et qui va me renvoyer à plus grande énergie. Et donc le jeu, c'est qu'à chaque croisée du choc, la particule se redistribue vectoriellement en moyenne dans le milieu. Et ça, c'est le travail des champs magnétiques, de faire tourner la particule pour la faire changer de direction dans tous les sens, sans perdre l'énergie. Là, je vous ai résumé l'accélération de fermeture. Donc c'est un peu ce que font les surfeurs quand ils sont sur la vague. Pourquoi ils arrivent à toujours avancer? Ben, c'est parce qu'ils passent sans arrêt avant-arrière. Et donc, ils utilisent quelque part l'onde de choc, c'est une onde de choc d'un type un peu particulier, mais ils utilisent le fait qu'ils réaccélèrent un petit coup à chaque fois qu'ils se prennent la vague dans le bon sens. Donc la différence là, c'est que nous, c'est toujours un milieu de raquette frontale qui arrive grâce à l'isotropisation magnétique des deux côtés. Donc ce qu'il vous faut, c'est vraiment un champ magnétique désordonné de part et d'autre dans les deux milieux qui va du coup vous renvoyer les particules dans toutes les directions, une diffusion aléatoire. Or c'est facile d'imaginer que dans le milieu aval, quand on s'est pris toute l'onde de choc, que le champ magnétique il a été emmêlé, il a été comprimé, etc., ça a pu amplifier des tas d'inhomogénéités dans la forme des lignes de champ. Dans le milieu amont, le choc n'est pas encore arrivé, ça a posé beaucoup de problèmes. Donc c'est pour ça que Fermi y avait pensé, mais il n'avait pas trouvé la solution. On pouvait bien ricocher ici, mais quand on passait là, on allait tout droit, ou plus facilement tout droit. Et il n'avait pas pensé à trouver cette solution, et c'est paradoxalement ce qui vous montre bien qu'en science, les idées traînent dans l'air du temps, et qu'il y a un moment, un état métastable, et que tout le monde percute en même temps. C'est ce qui est arrivé sur la... Comment ça s'appelle ? Sur la gravitation, Newton, il a rajouté les termes. Enfin, il y avait deux personnes, un Canadien et un Français, qui avaient les trois quarts de la gravitation avant lui. Donc, c'est dans l'air du temps, c'était de trouver, en même temps, Tony Bell en Angleterre, Axford en Allemagne, Bradford et Spiker aux États-Unis. Les trois papiers ont été envoyés à 3-4 mois d'écart, je ne sais plus le chiffre exact, totalement indépendamment. Ils ne travaillaient pas ensemble. Ils sont tous arrivés à la même solution et par trois chemins différents. Lui, il est arrivé avec la physique MHD totale, lui, il est arrivé avec un raisonnement de particules, et lui, eux deux sont arrivés avec des analyses un petit peu plus analytiques, etc. Mais trois chemins complètement différents pour dire ça. Pour dire que pour arriver en amont à créer les instabilités magnétiques qui vont faire que les particules vont, dans le référentiel amont, s'isotropiser, il fallait qu'il y ait des perturbations dans le champ magnétique qui soient causées par les particules elles-mêmes. Donc, il y a une instabilité parce que ces particules sont là, il y a des effets de streaming instability que je ne déciderai pas, et puis comme Alex, il est dans son PC, il ne pourra pas me les dire. Vous avez des effets d'instabilité sur le champ magnétique. Et en fait, certaines particules vont pouvoir se coupler à ces effets, à ces ondes d'Alben. Les ondes d'Alben, ce sont des ondes de distorsion des champs, de la ligne de champ magnétique. Et donc, si vous avez des instabilités qui sont générées parce qu'il y a un flux global de courant qui sort, parce qu'il y a des rayons cosmiques qui s'échappent de l'onde de choc, et à ce moment-là, vous allez créer des effets d'oscillation des lignes de champ, et les particules certaines particules vont pouvoir se coupler. Vous voyez bien que si les rayons de giration des particules sont trop petits par rapport aux ondes d'Alben, il n'y a pas couplage, elles ne le voient même pas, elles suivent tranquillement la direction. Si au contraire elles ont un rayon de giration qui est très grand devant les inhomogénéités, elles ne voient pas. Et ce qui ne va marcher, c'est-à-dire fournir une déflexion spatiale dans l'angle, ce qu'on appelle le pitch angle, c'est quand vous avez un rayon de giration de la particule qui est commensurable avec la longueur d'onde des ondes d'Alben. Et donc là, vous avez créé les ondes d'Alben par le flux global et les particules qui ont la bonne longueur d'onde, qui ont le bon rayon de giration. Or, le rayon de giration, c'est l'énergie de la particule, ça augmente linéairement. Certaines particules vont pouvoir se coupler très fort avec ces perturbations et du coup se défléchir, et puis au bout d'un moment elles se sont tellement bien défléchies qu'elles ont une vitesse aléatoire par rapport au milieu, donc une vitesse moyenne nulle relative par rapport au milieu. Et ça, on le voit sur cette simulation, ça c'est une vraie simulation, de quelques particules. Donc vous voyez une particule, alors elle est partie de là. Donc vous la voyez, elle est en train de faire ses petits loopings, elle est passée le choc. Quand elle passe le choc, bah, de temps en temps elle revient, de temps en temps, etc. Elle ne trouve pas la porte d'entrée pour revenir, mais elle y arrive. Vous voyez qu'elle passe ici, puis elle continue, on recommence, elle repasse là, puis elle revient là, puis elle repasse là. Chaque fois elle a gagné delta P sur P. C'est la quantité de mouvement du coup de raquette. Et puis elle va repartir, puis elle va revenir, et puis elle va repartir, elle va revenir. Alors vous regardez, le rayon de giration est proportionnel à l'énergie. Donc vous voyez ici que petit rayon de giration, puis au fur et à mesure, le rayon de giration augmente. Vous voyez de visu qu'elle est en train de gagner de l'énergie à chaque passage du coup de raquette. Donc c'est ça l'accélération de Fermi, et vous avez ce processus qui est vraiment un processus aléatoire, et tant que la particule sillonne de part et d'autre, et qu'elle trouve les bonnes inhomogénéités pour se passer de l'autre côté de la barrière, elle va gagner de l'énergie à chaque passage. Alors là je vous résume 3, 4 rôles et ça se fait en 5, 6 pages, je les calcule, mais vous avez le processus fondamental pour arriver à dire pourquoi on fait une loi de puissance, pourquoi c'est une aussi belle loi de puissance et pourquoi est-elle aussi universelle. Bien, on peut le démontrer rapidement, au moins avec les mains, c'est que la loi de puissance elle va naître du fait que vous avez une équation. Alors si je prends la fonction de distribution quantité de mouvement des particules, hein, nombre de particules par unité de quantité de mouvement, et sa fonction intégrale qui est combien il y a de particules au-dessus d'un certain seuil. Et cette fonction intégrale doit répondre au fait que d'un côté il y a des variations temporelles et puis il y a un temps de cycle pour faire un aller-retour. De l'autre côté, vous avez un gain de quantité de mouvement à chaque passage de la raquette. Et de l'autre côté, vous avez perte. Vous avez une évasion à l'extérieur qui est que il y a des particules qui ne font jamais demi-tour et qui finiront par s'échapper de l'onde de choc. Et bien, quand vous avez l'équilibre entre tous ces phénomènes, vous vous retrouvez avec quelque chose qui sera une distribution des particules en quantité de mouvement qui est une loi de puissance avec un indice qui ne dépend plus rien que de la compressibilité du milieu. Alors ça, on peut le voir juste pour vous faire sentir les calculs qui sont derrière. Si je regarde les particules qui sont dans la partie amont du jeu, vous avez d'une part la diffusion qui les entraîne au loin. Vous voyez que les particules ont tendance à la upstream. Il y a les particules qui s'en vont, et puis il y a le fait que, vu du choc, on s'assied toujours dans le référentiel du choc. Donc vous êtes par diffusion entraîné au loin du choc, et puis le tapis roulant du choc U1 qui vous ramène vers le choc. Donc vous avez un équilibre possible entre le fait que vous cherchez à diffuser par là, et puis le tapis vous retire vers le choc. Donc quand vous écrivez la conservation ici simplement du gradient de densité et de la convection du U1 qui vous entraîne, il y a une solution toute bête d'une équation du premier ordre, donc une solution exponentielle. Et cette solution exponentielle vous dit qu'il y a plus de particules près du choc et que plus vous allez loin du choc, moins il y en a exponentiellement. Ça c'est une partie. Donc naturellement la convection vous ramène vers le choc quand vous êtes en amont. Par contre, en aval, le tapis roulant, il vous entraîne systématiquement plus loin. Donc, vous avez une distribution de particules qui diffuse ici, et puis de temps en temps, elles arrivent à remonter de l'autre côté, youpi, elles se prennent un coup de raquette, mais il y en a aussi qui sont entraînées loin, le tapis roulant les emmène. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand on parle d'évasion ici, c'est pas l'évasion à l'extérieur comme on le pense toujours. On se dit, il y a un reste de supernova, c'est rond, il y en a qui vont trop loin et qui reviendront jamais. Non, c'est de l'évasion à l'intérieur, c'est-à-dire dans la partie advectée dans U2, advectée par rapport au choc. Donc, et là, on voit une marche aléatoire, ça vous fournit des courbes gaussiennes avec un racine du coefficient de diffusion, racine de dt en largeur. Alors, on voit que si le d, vous êtes à haute énergie, c'est sympa parce que votre gaussienne va pouvoir passer un petit bout par là. Mais si vous êtes à basse énergie, vous êtes assez rapidement advecté et puis vous ne revenez pas dans le choc. Donc, quelque part, la probabilité d'évasion, ça sera vraiment lié à U2, à la vitesse C, et puis le facteur 4, c'est le flux des particules avec toute la diffusion qui vient faire ce calcul. Et comme à chaque passage de choc, vous avez simplement la raquette qui est la différence des vitesses entre l'amont et l'aval, U1 moins U2, vous avez un gain, ça c'est des histoires de flux, Le U1 sur U2 sur C ici, c'est vraiment le nombre de particules qui arrivent à traverser par unité de temps. Mais le delta P sur P moyen que vous allez gagner, vous voyez que c'est une fonction que des vitesses, et surtout de la vitesse de convergence de ces deux milieux quand on s'assied sur l'un et quand on s'assied sur l'autre. Donc, à chaque passage, vous gagnez une fraction constante de votre quantité de mouvement préalable. Donc, en fait, c'est une diffusion spatiale. Enfin, on tricote par là, hop, on saute, on tricote par là, hop, on saute. Et à chaque passage, vous allez gagner une fraction constante de la quantité de mouvement que vous aviez avant. Donc, c'est aussi une diffusion en énergie. Et petit à petit, vous allez gagner de l'énergie. Et le résultat de la course, c'est que vous voyez que la pente de cette équation, bon, c'est une équation intégro-différentielle, ça peut plus casse-pied à calculer, mais la pente de cette équation, elle n'a fait intervenir que la géométrie convergente des vitesses, rien d'autre, et la probabilité d'évasion tirée par le tapis ici, qui est encore une histoire de vitesse. Et ces rapports de vitesse, il y a des U1 sur U2 que vous pouvez faire sortir, il ne vous reste que le rapport de compression de l'onde de choc. Et si vous en souvenez, ce rapport de compression, ça ne dépend que de l'indice, le rapport des chaleurs spécifiques, l'indice adiabatique gamma. Donc vous pouvez faire ça avec une onde de choc de réseau supernova, de vent stellaire, de ce que vous voulez, ça ne dépend que de la compressibilité du milieu dans lequel l'onde de choc circule. C'est extrêmement universel. Donc du coup, c'est ce qui a guidé ces gens dans les années 77-78 à dire, bah oui, le processus de Fermi marche. Il marche ici au premier ordre. Vous voyez que vous êtes en V sur C, vous n'êtes plus en V2 sur C2, parce que vous avez cette géométrie de flot convergent. Et si vous voulez vous donner une analogie dans la tête pour dire, mais pourquoi un flot convergent, ça accélère aussi bien? Bah, regardez deux joueurs de tennis, au prochain Wimbledon ou Roland Garros, vous regardez deux joueurs de tennis, quand tous les deux montent à la volée, il faut quoi? Deux, trois échanges, jamais plus. Parce que comme ils ont tapé tous les deux en flot convergent, la balle a tellement accéléré que même avec leur entraînement et même avec leur réflexe, ils sont incapables de suivre la vitesse de la balle. Donc c'est uniquement ça. C'est-à-dire que vous avez deux milieux, amont et aval, à cause de l'isotropisation vectorielle, qui sont des raquettes convergence de joueurs qui montent à la volée. Voilà un peu l'idée. Donc et que c'est universel parce que ça ne dépend que du rapport de compression, c'est-à-dire de la variation relative des vitesses convergentes. Alors on le voit ici sur cette simulation de Matthew Baring de nouveau, qui vous montre que ici il est parti d'un potentiel d'une distribution Maxwell de thermique, d'un truc qui n'était pas spécialement chaud d'ailleurs, puisque vous avez une 10 ah non, c'est son éclair quand même. Vous êtes à quelques centaines d'électronvolts de chaleur, c'est pas énorme. Et on voit un passage. Vous trouvez toute la maxwellienne qui a été poussée. Deuxième passage, troisième passage, quatrième, etc. Et vous voyez surtout, c'est pour ça que j'adore ce vieux papier, parce qu'il vous montre exactement ce qui se passe. Vous prélevez une partie de la population à chaque fois et vous l'emmenez delta P sur P ou delta E sur E. Puis vous prenez une partie de la population delta E sur E, etc. Et à chaque passage, vous gagnez. Et la loi de puissance se met en place très rapidement par ce rapport entre la probabilité d'évasion, c'est-à-dire combien il vous en reste dans la maxwellienne, et le delta E sur E, qui est cette que vous voyez bien, hein, c'est un pas régulier en log, puisque c'est une fraction constante. D'accord ? Donc, par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que l'efficacité d'un choc va être différente si vous avez un reste de supernova en expansion ici. Bon, il va tirer sur les lignes de champ préexistantes pour le déformer un peu. Et ici, alors c'est là où le vocabulaire est insupportable, je vous l'ai mis, moi j'arrive jamais à m'en rappeler, bon, non, je suis pas loin de ces sujets-là. C'est-à-dire que le choc parallèle, c'est quand il est perpendiculaire au choc, le champ magnétique, et un choc perpendiculaire, c'est quand le champ magnétique est parallèle. Merci mes copains. Donc voilà la géométrie. C'est clair que quand vous êtes dans un choc dit perpendiculaire, les rayons de giration vous obligent à passer comme ça et vous allez avoir du mal à sauter. Quand vous êtes au contraire avec des lignes de champ qui sont bien perpendiculaires au choc, là vous allez facilement pouvoir jouer à changer de camp. Et donc l'efficacité est forte ici, elle va diminuer ici. Et là, si vous faites pour un cas oblique avec un angle θB, ben voilà, vous voyez la chute. Là c'est efficace, vous êtes choc parallèle, désolé. Et là vous êtes inefficace, vous êtes un choc ne serait-ce qu'à 25 degrés. Vous voyez, dès que vous inclinez un peu le champ magnétique moyen global, on chute assez fortement dans l'efficacité. Mais regardez, on ne change absolument pas la pente. La pente, elle est réglée uniquement par le taux d'évasion et le taux de compression. C'est tout. Donc, vous ne changez que la quantité de particules que vous allez accélérer, mais vous n'allez pas changer leur spectre en énergie. Et un autre petit point de vue intéressant sur l'accélération de Fermi, c'est que le temps de faire un aller-retour, bah ça, c'est lié au coefficient de diffusion dans le milieu amont divisé par la vitesse relative U1. Ça, c'est vous allez là-bas et le tapis vous tire. Là, c'est la même chose pour la partie aval. Et donc, bon, ça se démontre rapidement avec l'histoire de flux qui traverse le choc, que la durée d'un cycle, c'est en D1 sur 1 plus D2 sur U2, et on peut faire des approximations de dire que D1 et D2 ne sont pas très loin l'un de l'autre, il y a des coefficients de compression entre les deux, c'est pas méchant. Mais c'est surtout intéressant de voir que de toute façon, et D1 et D2, il y a très peu d'écart en delta P sur P entre les deux milieux, à chaque passage, ce sont des choses qui sont proportionnelles aux coefficients de diffusion, donc aux rayons de giration, puisque vous rappelez que vous ne couplez en diffusion que les rayons de giration qui vont bien avec les ondes de longueur d'onde ad hoc. Donc c'est proportionnel à l'énergie. Et comme c'est proportionnel à l'énergie et que le delta P sur P ou bien le delta E sur E ne dépend que des vitesses, c'est-à-dire que c'est quelque chose de constant, bah, si vous écrivez le taux d'accélération par unité de temps, vous vous retrouvez avec delta E sur E, c'est constant, E sur la durée du cycle, or la durée du cycle est proportionnelle à l'énergie. Donc vous vous retrouvez avec un nombre d'électronvolts par seconde que vous gagnez qui est constant. Et donc ça vous montre, éclaire un point de vue important de l'accélération de Fermi, c'est que si vous voulez atteindre une certaine énergie, bah vous attendez. Il faut que la particule reste dans le système, elle passe de part et d'autre, et tant qu'elle passe, elle gagne de l'énergie par unité de temps constant. Que ce soit le début ou que ce soit la fin, c'est pareil. Elle gagne le même nombre d'électronvolts par minute, par heure, par seconde, par ce que vous voulez. D'accord ? Donc, ça donne lieu à ce graphe qui a circulé beaucoup quand les gens ont commencé à se poser la question de savoir mais où sont les accélérateurs capables de sortir les 10 puissance 20 électronvolts des très grands rayons cosmiques ? Ben, ils ont cherché des objets qui sont capables de tenir assez longtemps les particules dans le système. Et quand vont-elles sortir? Quel est le maximum d'énergie que vous pouvez atteindre? Ben, vous pouvez l'atteindre de trois manières différentes. La première manière, c'est géométriquement. Quand vous avez un temps ici, enfin une dimension, D1 sur V1, c'est donc une dimension de la diffusion, c'est-à-dire des rayons de giration, etc., et des virevolts, des particules qui commencent à devenir commensurables avec la taille de l'objet, il y a une bonne chance que vous ne reveniez pas. Alors, en tout cas, que l'onde de choc n'est plus un objet référent pour vous. Donc, en appliquant simplement cette formule, le coefficient de diffusion sur la vitesse du choc plus petite que la taille de l'objet, vous traduisez le coefficient de diffusion en E sur 3Z de B, ça c'est le coefficient de diffusion, le rayon de giration et une marche aléatoire derrière. Vous avez ici une loi simple qui vous dit que l'énergie est inférieure à une barrière qui est proportionnelle à la taille des objets et à la vitesse des ondes de choc. Et ça vous fait quelque chose sur ce graphe qui est là, vous voyez, des naines blanches, des sursauts gamma, des étoiles à neutrons, des collisions de galaxies, des races de supernova, la taille des galaxies, des amas de galaxies, et de voir qu'effectivement, dans ces conditions-là, il n'y a pas beaucoup d'objets qui nous fournissent les 10 puissance 20 électrovolts. Donc Fermi est derrière, c'est clair, c'est le seul processus qui peut monter là-haut, mais il faut avoir de la place et du temps. Il faut que les particules, c'est pour ça qu'on pense beaucoup au grand lobe que je vous montrais au bout des jets des trous noirs supermassifs des galaxies, parce que là il y a de la place, là on est sur des centaines, des milliers ou des dizaines de milliers d'années-lumière, vous avez la place, vous avez des chocs qui sont avec des nombres de Mach pas négligeables, et vous avez du temps, parce que la durée de vie de ces objets c'est une fraction commensurable de la durée de vie de la galaxie, donc on parle de centaines de millions d'années, le jet il peut être éruptif au départ, mais le cumul de ce qui se passe à l'autre bout là-bas, ça peut être des centaines de millions d'années sans problème. Donc vous avez du temps et un grand espace. Vous faites le calcul, ça passe juste. On arrive aux 10 puissance 20, on peut y aller. Mais c'est guère le seul type d'objet qui peut faire ça. Et ça, c'est vraiment inhérent à ce qui se passe au niveau microscopique. on gagne un certain nombre d'électrovolts par seconde et on ne peut rien y faire, et ça n'est lié qu'aux vitesses. L'autre chose, vous pouvez... alors pour les restes de supernova, ce n'est pas la taille qui va bloquer. Enfin, c'est la taille au tout début, quand l'objet est petit, avant son expansion, et ça va être rapidement... C'est l'âge, très vite. L'âge fait que vous n'avez que 10 000 ans pour accélérer, vous n'avez qu'un siècle pour accélérer, et c'est ça, du coup, vous ne gagnez pas beaucoup d'électrovolts. c'est pas beaucoup. Alors, ceux-là, quand même, on peut les monter jusqu'à 10 puissance 15 électronvolts, et toutes les théories disent en dessous de 10 puissance 14. Ça fait depuis 1978 et 1980 un papier de Lagage et Cesarski qui a montré que, en tirant sur tous les paramètres, en mettant tout au mieux, ils arrivaient à 10 puissance 14 électronvolts. On a tout refait derrière avec des tas de théories sur-sophistiquées. On est monté péniblement à 10-15 et en ce moment, ce qui est encore plus sophistiqué est en train de redescendre en dessous de 10-14. Donc on va faire un joli retour, on revient. Donc entre 10 puissance 14 électronvolts et 10 puissance 20 électronvolts, c'est le no man's land, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quelles sont les sources. Or, elles sont galactiques, ça on est sûr. Mais on ne sait pas du tout quel est l'objet. Et troisième manière de limiter... l'énergie maximum par Fermi, donc soit c'était la taille de l'objet, soit c'était le temps de l'âge de l'objet, soit c'est les pertes radiatives. Alors pour les noyaux, c'est pas facile de faire rayonner un noyau, c'est lourd, ça a horreur de prendre des virages et de changer les échanges électriques, donc ça, mais par contre pour les électrons, comme ça rayonne à tout craint, c'est toujours les coupures radiatives qui limitent l'énergie maximum. Vous emmenez les rayons cosmiques à des centaines de TeV jusqu'à 10 puissance 20 électrovolts, ce sont des noyaux. Dans les rayons cosmiques, il y a 1% d'électrons. Et dans la partie galactique, là, ici, dans la partie... des électrons cosmiques, au-delà du TeV, 3 TeV, c'est le record du monde aujourd'hui. Parce que les pertes synchrotrons sont beaucoup trop lourdes et ça limite l'énergie maximum. Voilà, donc ça c'est le principe de base. Maintenant, on va juste regarder rapidement des exemples pour la voir. Vous avez la magnétosphère de la Terre ici, donc la maxwellienne. Là, ce sont des vraies mesures qui ont été faites par un satellite en balade. Vous avez donc la maxwellienne qui est là. Et vous voyez toute cette petite oreille qui dépasse là. Ce sont des particules accélérées par le choc où ça a été mesuré. Donc le choc, ce sont les chocs dans la magnétosphère terrestre. Et vous voyez ici que c'est pas du tout négligeable l'activité de ces chocs. Il y a 2,5% des protons qui sont partis de la maxwellienne pour aller dans la partie accélérée, et en nombre, et en énergie, ça représente, l'intégrale là représente 25% d'énergie qui est passée dans la phase accélérée. Un autre exemple, là vous avez des chocs interplanétaires, c'est la sonde Ulysse, une vieille sonde qu'on avait envoyée, Sacklay avait participé il y a des années. Qui est partie de la Terre, qui est allée voir, qui a fait un petit coup de fronde avec Jupiter pour sortir du plan de l'écliptique et aller sonder les pôles solaires. À la grande surprise, on trouve la même chose au niveau des pôles solaires que dans le plan ici, alors que la configuration du champ magnétique n'est pas la même. Mais bon, passons. Vous voyez surtout dans ce jeu de données qui sont des ions particuliers, il y avait un choc interplanétaire sur la route qui était très très incliné. Donc du coup, c'était intéressant pour eux de savoir quelle était l'efficacité. Et ils ont, vous voyez les données, les points, vous voyez les modèles d'accélération de Fermi qui passent très bien alors là, ce ne sont pas du spectre en levée de puissance, là, c'est de la vitesse. Mais qui passe très bien dans les données, et du coup, avec des nombres de Mach faibles, 4, et même cette inclinaison, on a des problèmes d'efficacité, mais ils ont quand même réussi à pas mal modéliser ce qui se passait. Les rayons cosmiques anormaux, c'est-à-dire qu'il y a des rayons cosmiques qui arrivent de l'extérieur, ils jouent avec le choc externe, ils jouent avec le choc terminal du vent du Soleil dont on parlait tout à l'heure, et en jouant avec ça, on peut avoir même des ions du milieu interstellaire qui pénètrent assez profondément et qui se font accélérer là, ça s'appelle les rayons cosmiques anormaux, c'est-à-dire qu'ils ont été produits par les ondes de choc localement et pas du tout des cosmiques galactiques. Et c'est là où c'est la bouteille à l'encre avec les histoires de Voyager, les animations qu'ils ont mises pour illustrer ce qu'on pensait, c'est-à-dire que les cosmiques arrivent de l'extérieur, ils tricotaient un peu au niveau du choc externe dans les traves, et puis ils jouaient un petit peu ici pour faire de l'accélération, mais globalement ça se passait pas trop mal. Et la réalité qui commence à subodorer, tiens, le film n'a pas voulu se déclencher, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est que je vous parlais de la mousse. Voilà, l'état magnétique de ce qu'ils sont en train de repérer dans la zone milieu interstellaire choqué et vent choqué. Et du coup, bah, les particules, elles ont des mouvements compliqués là, et puis elles ont des jeux de prise de tête entre les chocs internes et les chocs externes. Donc tout ça, ça fait qu'on a une vision quand même un petit peu plus difficile. Le principe est le même derrière, mais il y a une complexité de chocs qui part dans tous les sens, là, qui commence à devenir difficile à modéliser. Vous avez un exemple sur le reste de supernova de SN1006 qu'on a vu tout à l'heure. Et pourquoi on avait ces deux phénomènes de calottes plus lumineuses sur le bord ici? Ce que vous voyez en bleu, c'est la partie synchrotron. C'est de l'émission synchrotron d'électrons qui ont été accélérés par le choc. Et parce que ça rayonne en rayons X, le synchrotron dans le champ magnétique qui est là, ça vous dit que les particules ont 100 TeV. Ce sont des électrons de 100 TeV qui ont été accélérés depuis 1000 ans, hein, puisqu'elles datent de 1006. Donc, vous avez cette vision où on voit les électrons. Alors, évidemment, les électrons, c'est 1% des rayons cosmiques, c'est pas rigolo. On cherche vraiment, et on sait depuis la radio, depuis des années, que c'est lié à l'accélération de Fermi sur place dans les électrons. Alors, une explication, ça serait de dire que c'est pas efficace là et que c'est efficace ici. Donc, ça veut dire que le champ magnétique global aurait tendance à être un petit peu. Alors, dans le sens n'est pas donné, hein. Mais quelque part dans ce sens-là, parce que ça ne serait pas efficace ici parce qu'on est perpendiculaire. Ça, c'est une possibilité. Ce qui est intéressant, c'est de voir que non seulement vous avez en nombre plus d'électrons accélérés ici qu'ici, parce que la luminosité synchrotron est plus importante, mais en qualité aussi. Vous voyez ici le profil, si je fais le tour du reste, du bord, vous voyez que je passe par un dôme, un deuxième dôme, ce qui veut dire que sur ces calottes, où il y a plus d'accélération, il y a aussi accélération à plus haute énergie. Il s'en faut d'un facteur 2 ou 3 plus important. Donc l'accélérateur est à la fois plus efficace pour injecter les particules dans le jeu d'isotropisation et pour les coincer pour qu'ils montent plus haut en énergie plus longtemps. Et du coup, en rayon gamma, les gens ont cherché pendant très longtemps avec les rayons gamma du TeV, donc très, très énergétique, en se disant est-ce qu'on peut voir les protons qui vont avec, parce que si vous accélérez un électron relativiste ou un proton relativiste, ok, il y en a un qui fait ça dans le champ magnétique pendant que l'autre fait ça. Mais quand ils ont 10 GeV, 100 GeV ou un TeV, il n'y a pas de différence à la sortie. Donc, ils ont cherché désespérément les protons. Et les protons peuvent avoir une réaction qui est qu'un proton accéléré qui tape sur un proton au repos du milieu, ce sont des quarks qui voient des quarks et qui ne sont pas d'accord, font des pions neutres, et les pions neutres sont instables et décroissent, se désintègrent en deux photons gamma rapidement. Donc les gens ont cherché ce signal, on l'a trouvé sur plusieurs restes de supernova, il y a un signal gamma. Malheureusement pour nous, un proton comme ça, c'est pas très émissif, et alors les électrons, ils ont 36 moyens de faire de la lumière, et même en rayon gamma, ils en font beaucoup. Donc on a une dégénérescence complète de la compréhension de ce rayon gamma de très haute énergie qui peut être soit lié au proton, mais très probablement fortement lié aux électrons. Donc les électrons, on les connaissait déjà avec le synchrotron, c'est pas marrant. Ça nous fournit des infos sur le champ magnétique, mais pas sur le processus d'accélération. Alors là-dessus, il y a 2 ans maintenant, même pas, Fermi, qui a un télescope gamma spatial, et non pas l'image précédente que je vous montrais, qui était un télescope au sol, donc plus haute énergie. Là, je redescends du TeV, je vais voir avec Fermi dans les centaines de MeV, et là, vous avez un reste de supernova, et puis l'espèce de truc rosé qui vous dit que tout ça, ça émet en rayon gamma. C'est là que vous voyez que rayonnement gamma, on n'a pas du tout les résolutions angulaires d'image qu'on peut avoir dans les autres domaines de longueur d'onde, on est très très flou. Là, vous avez un autre reste de supernova, la Méduse, et vous voyez que y a des rayons gamma partout. Et parce qu'on est à plus basse énergie, les électrons sont un peu moins enquiquinants et on soupçonne très fortement à 90 chances sur 100 que ce soit enfin les protons qu'on voit. Je mets encore un tout petit bémol parce que la nature est très 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 souvent. Donc c'est peut-être encore des électrons, mais probablement pas. C'est presque fini. Un autre exemple qui vient de nous sortir pour montrer la rapidité à laquelle Fermi peut jouer. Vous avez une étoile qui a une étoile dense ici et une étoile compagnon qui lui fait tomber de la matière dessus. Il y a une réaction nucléaire, c'est un champignon suite Seedorf de tout à l'heure, c'est une réaction nucléaire qui a lieu. L'onde ne choque pas et à notre très grande surprise, l'accélération marche et a pu créer des rayons cosmiques là. Vous voyez le absence de signal, la veille de l'explosion. Vous voyez présence d'un signal gamma juste à l'explosion. Et ce n'est pas le signal nucléaire qu'on voit, c'est l'accélération de particules par l'onde de choc. Donc ça a été la bonne surprise. Je vous montrais, je vais couper la rétroaction, je vous montrais juste les lobes ici, l'image gamma, qui nous dit que l'accélération de ces particules a eu lieu par là. Elle n'a pas eu lieu au niveau du trou noir. Donc c'est bien l'accélération par choc qu'on a vue. Donc juste pour vous finir, je saute tout ça. Juste pour vous finir, pourquoi ces cosmiques sont des enquiquineurs? Bon, ben d'abord parce qu'on ne sait pas leur origine depuis 1910, et que ça commence à devenir désagréable. Mais surtout parce qu'on vient de réaliser qu'ils sont capables de piquer pas mal d'énergie aux ondes de choc. Ici, vous avez le taux d'énergie, de la fraction d'énergie qui passe dans les particules. Vous avez vu déjà sur la Terre tout à l'heure, c'était 25%. Ici, c'est sur un reste de supernova. Voilà les estimations des modèles. Le choc retour, il ne fait rien. Le choc avant, lui, fait beaucoup. Et voyez qu'on peut piquer 30, 40, 50, presque 60% de l'énergie de l'onde dans les particules. Et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que toute la thermodynamique que je vous ai écrite pour les deux heures précédentes, l'oubliez, parce que, en fait, il y a un canal de fuite d'énergie considérable qu'on n'a pas pris en compte, et voilà l'impact que ça a. Ici, alors là, on passe sur des simulations hydro-costaud hein, pour le faire, parce que l'onde de choc accélère. C'est la vitesse de l'onde de choc qui accélère et qui donne l'efficacité d'accélération. Et parce que vous accélérez, vous piquez de l'énergie, et donc vous modifiez la vitesse de l'onde de choc. Donc, sympa pour la boucle de rétroaction. Donc là, il faut non seulement des gros codes, mais qui tournent sur des très gros calculateurs, parce qu'il y a une partie de calcul de particules et une partie de calcul de thermo, il faut coupler les deux. Alors, ici, vous voyez la simulation d'un reste de supernova sans rayon cosmique. Vous voyez donc le choc avant, la discontinuité de contact et toutes les instabilités de Rayleigh d'Alort derrière. Et voilà ce que ça donne si vous couplez la fuite d'énergie sur les rayons cosmiques. Et vous voyez que d'abord, ça va loin, hein, vous avez piqué l'énergie. Par contre, ce que vous voyez, c'est que la discontinuité de contact s'est rapprochée du choc avant. Et ça, c'est parce que vous avez un gaz plus relativiste, vous avez mis des particules relativistes dans le gaz, et le gamma de 5 tiers est devenu un petit peu du 4 tiers. Et donc c'est un gamma plus compressible. Et comme c'est plus compressible, vous n'avez pas changé le flux de matière à travers le choc, et bien vous mettez moins de volume pour le comprimer. Donc la discontinuité de contact s'est rapprochée. Et effectivement, donc ça c'est juste pour vous mettre le profil, hein, sans accélération, avec accélération. Vous voyez comme le changement de profil de densité est tout compacté derrière le choc beaucoup plus. Et ça, c'est probablement la meilleure piste qu'on a aujourd'hui pour étudier l'accélération thermo. Parce qu'en fait, l'accélération elle-même, les particules, on les voit mal. Mais là, on a des diagnostics où se trouve la discontinuité de contact. Quelle est la température derrière le choc? Si vous avez piqué de l'énergie, c'est pas aussi chaud derrière. Et effectivement, ça faisait des années que les gens en rayon X se disaient « Mais pourquoi le gaz derrière, il n'est pas aussi chaud? J'ai la mesure de vitesse, T2, je le connais, et ça ne marche pas. » Et en fait, la fuite, elle est dans les particules. Donc, il y a une grosse boucle de rétroaction, et c'est le message principal de l'état des connaissances aujourd'hui, c'est que les boucles de rétroaction sont en train de complexifier les jeux absolument partout. Là, je vous donne l'exemple thermodynamique, onde de choc et particules. Vous le trouvez dans plein d'endroits. Et du coup, bah, ça demande de très gros calculs et des choses très compliquées à faire. Voilà, merci.